Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, levons le voile sur le rôle des conseillers occultes. Oui, occultes, car la plupart d'entre eux préfèrent agir dans l'ombre, écrire des discours plutôt que les déclamer, manipuler parfois et regarder les hommes tomber. C'est le cas d'une femme, peu connue du grand public, mais extrêmement influente dans les années 70, au point que le magazine américain Newsweek la qualifie en 1973 de femme la plus puissante de France. À son tableau de chasse, Georges Pompidou, puis Jacques Chirac, qu'elle dit élever comme son poulain, des hommes d'État qu'elle chérit, puis qu'elle trahit, avant de se lancer elle-même dans l'arène, éperdue d'ambition et parfois de haine. Cette femme, c'est Marie-France Garraud, dont le garde des Sceaux Albin Chalandon disait « Elle avait toujours l'œil gourmand au moment de parler des gens qu'elle voulait assassiner. » Alors, qui est cette femme que craignaient tant les journalistes et les ténors de la politique ? Notre invité aujourd'hui, Olivier Faye, journaliste au Monde, chargé de l'actualité élyséenne pour son journal, auteur du livre La Conseillère, biographie de Marie-France Garraud. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Samedi 13 juin 2020. Tandis que la France déconfine, un étonnant message est diffusé sur le compte Twitter de la gendarmerie de Niort dans les Deux-Sèvres.
Disparition inquiétante de Marie-France Garraud en forêt de Mervent. Figure politique des années 70, âgée de 86 ans, 1m65, 55 kg, circule à bord d'une Toyota RAV4 grise, logo 75, si découverte ou renseignement utile, composée le 17.
Immédiatement, le message est repris par l'AFP. Car ce nom de Marie-France Garraud agit comme un flashback. Il renvoie à l'image de cette femme au chignon strict, tailleur Chanel et regardeuse. Mais surtout, il renvoie à une France qu'on croyait disparue, celle des années UDF et RPR ou du référendum pour le traité de Maastricht. La France du XXe siècle, en somme. Mais qui renaît à travers l'errance de cette vieille dame, partie la veille au soir, sous la pluie, sans argent ni téléphone portable. Alors, on envoie une vingtaine de gendarmes et une trentaine de militaires.
C'est un automobiliste qui a signalé une personne âgée qui était empêtrée dans des barbelés au bord d'un champ et qui avait l'air complètement désorientée.
Elle est donc retrouvée en fin de matinée à 40 km de chez elle. Octogénaire, désorientée, saisissant contraste avec ce qu'elle fut. Cette femme qui ne connaissait pas la vacuité, cette femme au caractère d'acier trempé. Un tempérament qui s'est construit dans son enfance provinciale, passée à Poitiers, la ville aux 100 clochers. La ville aux 3 S aussi, comme l'a qualifié La Fontaine, sainte, savante et sale. Une ville moyenne donc, où naît Marie-Françoise Quintard, le 6 mars 1934, fille unique des secondes noces de Marcel Quintard, un avoué de 53 ans. Sa mère en a 20 de moins. La famille est aisée, et le père, qui élève sa fille comme un garçon, enfin, dans son esprit, n'hésite pas à l'emmener avec lui à la chasse. Pour ses 15 ans, il la laisse tirer avant de lui confier « Tu sais, il y a deux catégories de chasseurs, ceux qui tirent en face et ceux qui tirent à côté. Toi, tu fais partie de la deuxième catégorie. » Humiliation cuisante qu'elle ruminera des années, la matrice sans doute de toute son existence. Après avoir été scolarisée chez les sœurs, ambiance maréchale nous voilà, elle s'inscrit en droit. Au début, Marie-France se montre fascinée par Pierre Ménès France et s'intéresse à la revue Esprit qui milite pour une gauche moderne. Mais tandis que la France rappelle De Gaulle pour fonder la Ve République et que la gauche crie au scandale, Marie-France retourne sa veste pour la première fois parce que elle aime les hommes à poigne. De Gaulle a le profil, va pour le général. Mai 61, tout juste mariée à Louis Garraud, un avocat poitevin discret, elle décroche un rendez-vous avec Jean Foyer, l'un des artisans de la nouvelle Constitution. Il la connaît bien, Marie-France, il était son prof à la fac de droit de Poitiers. Membre de l'Opus Dei, organisation catholique réactionnaire, l'homme est du genre à apprécier les messes en latin et la France dite « éternelle ». Ce dont Marie-France s'accommode, d'autant qu'il lui propose de devenir son attaché parlementaire. La jeune femme accepte, en dépit des colibés dont elle est victime. On l'appelle la mère au foyer. Il est vrai que la formule est bonne. on raille son allure, Poitevine également. Et alors ? Les chiens aboient, la caravane passe. Un an plus tard, Jean Foyer est promu garde des Sceaux et la nomme chargée de mission. Elle y travaille son réseau et cultive sa féminité dont elle pressent l'impact au sein de la sphère politique. Alors c'est vrai que côté concurrence à l'époque, il n'y a pas grand monde. En tout cas, les idées de Jean Foyer lui plaisent, des idées qui fleurent bon le raisonnement de droite, notamment sur le terrain de la délinquance.
Eh bien, contrairement à certaines doctrines modernes, je persiste à penser que l'immense majorité des criminels n'est pas constituée de malades mentaux et que des condamnations très sévères seraient de nature à décourager la poursuite de cette forme de criminalité, et certains exemples récents l'ont montré.
En 67, Jean Foyer est démis. Marie-France retourne vers Jacques Chaban-Delmas, alors président de l'Assemblée nationale. Mais ce dernier refuse de l'embaucher. Cette femme est brillante, certes, mais elle est désormais mère de famille et ne sera pas aussi disponible qu'un homme. Le duc de Bordeaux, futur premier ministre, ne se doute pas que la vengeance de Marie-France sera sans limite et brisera ses rêves présidentiels à tout jamais. En attendant, elle parvient à se faire recevoir à Matignon. Les femmes y sont secrétaires, les hommes pressés, le décor chargé. C'est Pierre Juillet qui la reçoit. Conscience gaulliste de Pompidou qu'il connaît depuis 1947, l'ancien maquisard est informé de tout. Participe aux investitures électorales, à connaissance des fonds secrets, des projets de loi. Il est d'ailleurs le seul à pouvoir entrer dans le bureau de Pompidou sans y être convié. Entre eux, l'entente est immédiate. Tous deux provinciaux et fervents chrétiens, Marie-France et lui aiment l'idée de manier les Français à la baguette. Et Juillet lui donne ce conseil.
Pierre avait une philosophie qu'il n'a cessé de me dire. Baisser la tête pour éviter les couteaux. Lever les pieds pour franchir les pièges et riez. Et lorsque vous ne savez pas de quoi rire, riez de vous-même.
Comme ces années-là sont passionnantes. Même lorsque De Gaulle éloigne Pompidou du pouvoir, même lorsque gronde l'affaire Markovic, Marie-France y voit une excellente occasion de se distinguer. Elle active ses réseaux, joue de la complaisance de Pierre Arpaillange, influent conseiller au ministère de la Justice, qui ne peut rien lui refuser. D'ailleurs, il lui communique les pièces du dossier Markovic pour qu'elle prenne en main cette affaire et qu'elle la démonte lors des dîners en ville, ses nombreux dîners en ville. Et Pompidou apprécie. Cette femme est d'une efficacité extraordinaire, dit-il, ne croyant pas si bien dire.
Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi.
Le vent tourne. En 69, le général démissionne après un référendum suicide. Georges Pompidou se retrouve face au président du Sénat, Alain Poher, au deuxième tour de la présidentielle. Blanc bonnet, bonnet blanc, comme le dira le candidat communiste Jacques Duclos. Aux côtés de Georges Pompidou, Pierre Juillet et Marie-France Garraud. La course est serrée. Alors, Marie-France empêche la diffusion d'un sondage où Alain Poher est en tête. Oh, il lui a suffi de débarquer au très sélect Polo Club où se détend Roland Sadoun, alors président de l'IFOP. Mais ce dernier refuse de jeter à la corbeille son périlleux sondage. Vous comprenez, chère madame, l'enquête a été payée et je me dois de l'honorer. Vous devriez faire attention, vous pourriez finir avec une balle dans l'œil, lui répond Marie-France. Ambiance.
En vertu de l'article 7 de la Constitution, qui indique que le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, au nom du Conseil constitutionnel, j'ai eu l'honneur de proclamer Georges Pompidou président de la République française.
Lors de la traditionnelle cérémonie d'investiture de Georges Pompidou à l'Élysée, retransmise à la télé, le banc et l'arrière-banc des héritiers du général est au complet. Baron et sous-baron, pape et sous-pape du gaullisme orphelin y sont. Jacques Chirac, Édouard Balladur, Michel Jobert, Pierre Juillet. Mais pas Marie-France Garraud, qui préfère rester dans l'ombre. Bien joué. En remerciement de ses bons et loyaux services discrets, Pompidou la nomme conseillère. Elle a 35 ans et l'impression délicieuse de diriger la France. On l'installe dans l'ancienne salle du Conseil des ministres, à deux portes du président. Une place d'honneur, même si sur l'organigramme du palais, elle et Pierre Juillet sont censés n'être en charge que des chasses présidentielles. Et les chasses, en effet, c'est ce qu'elle préfère, Marie-France. L'odeur du sang, probablement. À Marly, à Rambouillet, mais surtout à Chambord, le plus prestigieux des châteaux.
Samedi dernier, Monsieur Georges Pompidou, président de la République, a chassé en forêt de Chambord. Cette battue au sanglier fut couronnée de succès, comme le démontra le tableau final dressé au rond Henri IV. Sur les 14 sangliers abattus, le président Pompidou en inscrit 4 à son actif.
La chasse, c'est un goût que Marie-France partage avec Georges Pompidou et qui les rapproche de leurs racines rurales. Un lieu où les grands de ce monde se laissent tenter par le fusil et se confient. Un lieu où l'on tue aussi, accessoirement. D'ailleurs, il en est un qu'elle rêve d'accrocher son tableau de chasse, voire l'empailler. C'est Jacques Chaban-Delmas, celui qui l'avait conduite et qui l'avait prise de haut. Or, il vient de commettre un faux pas, le fringant nouveau Premier ministre. Sans en informer Pompidou, il a lancé son programme, nommé Nouvelle Société, dans lequel il est question de se rapprocher de certaines idées de la gauche, modernité, tolérance en bandoulière, posture qui fleure bon l'image Kennedy. Mais sur le fond, quoi? Se rapprocher de la gauche, l'ennemi juré, l'antéchrist? Marie-France Garraud s'étrangle. D'autant que Chaban a fait une étoile montante de la CFDT, son homme de confiance, un certain Jacques Delors, biberonné aux théories du club Jean Moulin, qui considérait De Gaulle comme un opportuniste. Marie-France Garraud en rage. Et puis il y a cette maudite question des médias. On ne parle pas encore de libéralisation, non. Mais Chaban veut plaire à la jeunesse, avec sans doute en ligne de mire la présidentielle de 76. Ainsi, lorsqu'il nomme Pierre Desgroupes à la tête de l'ORTF, pas vraiment un homme de droite, Juillet et Garraud ne décolèrent pas. Alors Marie-France manœuvre pour virer Desgroupes de la direction de l'ORTF et pour que le poste de secrétaire d'État à l'information soit confié à Philippe Mallot, un libéral qui se déclare, je le cite, « satisfait d'arracher la télévision à l'influence de ses intellectuels maboules et de ses soviets de dingue ». Bientôt, cette forme de paranoïa infuse. Partout, à l'Élysée, à Matignon, à la DST, même à la PJ, ou aux SDES, les services secrets, partout. On voit le spectre de la gauche, l'ennemi de l'intérieur. Comme un parfum de maccartisme à la française, Marie-France Garraud, la sorcière de Salem à l'envers. La France porte comme un charme, oui, mais on monte la garde. Et c'est Marie-France qui gère cette atmosphère délétère, qui semble avoir pollué les esprits gaullistes et qui permet l'inacceptable, lancer des écoutes partout dans Paris, chez les notables, les journalistes. Elle est en charge de la manœuvre, ou plutôt, elle la laisse à André Margineau, un ancien policier qui doit remettre chaque jour, à 17h, la synthèse de ses heures d'écoute, avant de faire disparaître l'épreuve dans une chaudière installée au fond du parc de l'Élysée. Et puis, dans le même temps, tombe une information qui va déboucher sur un scandale retentissant qui illustre bien l'atmosphère du moment.
Au Canard Enchaîné, on se pose des questions. Le dessinateur Escaro, l'un des administrateurs du journal, a fait une surprenante découverte cette nuit. Alors qu'il passait devant les futurs locaux de l'hebdomadaire satirique, un immeuble en construction rue Saint-Honoré, il a aperçu par hasard de la lumière. Vous me direz que le décret n'était pas encore paru. Mais normalement, ça n'aurait pas dû être allumé. Quelque peu surpris, Escaro a raconté la suite de son aventure nocturne à François Charpentier.
Je suis monté, et là je suis tombé sur toute une équipe qui était en train d'installer des fils, qui avaient soulevé des lattes de parquet, qui perçaient des trous dans les plafonds et dans les murs. J'ai demandé quel était le nom de l'entreprise, je n'ai pas été incapable de me le dire. Tout d'abord, il m'a dit qu'il venait pour le chauffage, qui marche depuis 15 jours d'ailleurs. Alors je suis redescendu, j'ai appelé le directeur, rédacteur en chef. Deux murs plus tard, on était sur place. On a rouvert les nattes de plancher, on a trouvé les trous.
C'était vraiment des micros.
Ah oui, il n'y a aucun doute.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez les poser plainte ou?
On va voir ça ce matin, là je vais aller au marbre. On va faire un numéro là-dessus, c'est intéressant.
Et tout se précipite. Claude Angéli, le directeur des Canards, accuse Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur, ainsi que Marie-France Garraud, dont le nom commence à sortir de l'ombre. Mais au fait, que fait cette femme au palais de l'Élysée? Elle programme des chasses, bien sûr. Tout comme elle nie avoir forcé la main de Georges Pompidou pour qu'il désavoue Raymond Marcellin, qu'il le remplace par son petit protégé. Chirac aurait répondu le président non, trop jeune pour un ministère comme l'intérieur. Mais Marie-France insiste, car avec Pierre Juillet, cela fait longtemps qu'ils rêvent tous les deux de cornaquer ce jeune loup de 40 ans qui, en 67, était parvenu à battre la gauche en Corrèze, une circonscription réputée imprenable. Prometteur. Alors va pour le ministère de l'Intérieur. Gain de cause. Puis elle insiste pour qu'on débarque Chaban, au bénéfice de Pierre Messmer, un austère baron, et non le maire de la Baule, Olivier Guichard, charismatique lui, mais qu'elle juge moins influençable. Grisée par le succès, Marie-France accepte de poser pour match aux côtés du puissant Michel Jobert, secrétaire général de l'Élysée, et de Pierre Juillet, debout devant l'Élysée. Mais le président s'agace. Il se sait malade. Or, avec elle, il a l'impression d'avoir un pied dans la tombe. Parce qu'elle le fatigue à sans cesse comploter. Mais que faire? Elle est devenue indéboulonnable et lui si faible. Georges Pompidou s'éteint le 2 avril 1974. Et la dame se sent pousser des ailes.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Garot Juillet, ils sont de tous les déjeuners et de toutes les batailles en vue de la présidentielle de 1974. Mais au fait, sont-ils ensemble? Leur couple ou leur association? Intrigue. En vérité, Marie-France Garot et Pierre Juillet agissent comme des parents qui auraient trouvé en Jacques Chirac un fils idéal, un futur président. Alors, Marie-France monte un coup dont elle a le secret, un truc diabolique. Elle encourage Edgar Faure, qui la courtise depuis des années, à se jeter dans la course, puis lance la rumeur auprès de Chaban, qui panique et se déclare candidat, alors que Georges Pompidou n'est pas encore enterré. Un faux pas aux yeux des Français. Chaban ne sait peut-être pas, mais sa candidature est déjà plombée. Reste Giscard. Oh, elle ne l'aime pas non plus celui-là, ce centriste hautain. Mais il vaut toujours mieux que Chaban. Alors, elle encourage le fameux appel des 43 que lance le président de l'UDR, Claude Labbé, ici au JT.
Le groupe de l'UDR entend conserver l'originalité qui est la sienne pour aujourd'hui et pour demain, et que c'est dans ces conditions qu'il apporte son soutien à Valéry Giscard d'Estaing. J'ajoute que dès demain matin, je rencontrerai le candidat qui, à partir d'aujourd'hui et pour nous, est le seul candidat de la démocratie.
Un peu comme si aujourd'hui le LR apportait son soutien à un autre candidat que Valérie Pécresse. Voyez le tableau. Un sacré coup de poignard, en tout cas dans le dos de Chaban. Une exécution. Mort au champ d'honneur avant d'avoir combattu. Et comme prévu par la manœuvre, c'est Jacques Chirac qui ramasse la mise. Après la victoire de Giscard contre Mitterrand, les gaullistes sont à la fête et se partagent le gâteau. Giscard propose à Pierre Juillet le Quai d'Orsay et à Marie-France une ambassade, histoire de les remercier tout en les éloignant. Or, tous deux refusent. 7 ans plus tard, c'est Chirac qui trahira Giscard. C'est le temps où politique rime avec polar. En attendant, Marie-France Garraud s'installe au cœur du pouvoir, tout près de Chirac, à Matignon. Et une fois de plus, elle ne figure sur aucun organigramme. Et une fois de plus, son bureau lui permet de surveiller les allées et venues dont elle discute chaque soir avec Jacques Chirac. Officiellement, c'est Jacques Pélissier, l'ancien préfet de Lyon, qui est son conseiller. En vérité, il regarde passer les balles et en prend vite ombrage. « Cette femme aimait une dictature morale extraordinaire, dit-il. » Oui, mais c'est une dictature qui s'impose. Car Giscard ne laisse aucune place à Chirac. Pire, il l'humilie. Un soir, que le chancelier allemand Helmut Schmidt est de passage à Paris pour un dîner officiel, le président convie Jean Sauvagnargues, le ministre des Affaires étrangères, mais pas Jacques Chirac. Humiliation. Il y a urgence. Le Premier ministre doit s'imposer. Accompagné de Pierre Juillet et de Charles Pasqua, Marie-France met tout en œuvre pour l'aider à prendre la tête de l'UDR. D'autant qu'avec la crise économique, Giscard est en baisse. Côté popularité, c'est le moment ou jamais de frapper, l'adversaire est affaibli. Ainsi, lorsqu'en mars 76, la gauche remporte les cantonales, Chirac peut enfin rendre son tablier, ce qu'il fera 5 mois plus tard avec perte et fracas. Résultat, après avoir flingué Chaban, Marie-France vise maintenant Giscard. Exit UDR, vive le RPR, nouveau nom de la formation gaulliste.
Le Rassemblement pour la République se situera résolument dans la majorité. J'ignore s'il sera bientôt toute la majorité, mais il...
Rien de tel que de changer l'appellation de la partie pour repartir du bon pied. Sauf qu'il reste 4 ans avant la prochaine présidentielle. C'est long, 4 ans. Et puis un jour, Eureka, le cerveau fécond de Madame la conseillère se remet à carburer. La solution lui vient alors qu'elle dîne avec son ami Xavier Marchetti, un journaliste corse qui lui parle des prochaines élections à la mairie de Paris. Élections à la mairie de Paris? Intéressant. Pourquoi pas Chirac? Mais l'intéressé hésite, freiné par Bernadette qui se méfie de Marie-France comme de la peste. Pourtant, elle ne devrait pas. C'est grâce à elle que Chirac a laissé tomber sa maîtresse, parce qu'un candidat qui divorce, ça fait mauvais genre. Alors comme d'habitude, Marie-France s'ordonne et Chirac s'exécute.
À Paris, l'heure n'est plus aux négociations de couloirs. Il convient maintenant d'affirmer clairement notre résolution et de faire en sorte que la capitale de la France ne court pas le risque de tomber entre les mains des socialo-communistes. En conséquence, et fidèle à l'engagement que j'ai pris, j'ai décidé de me présenter à Paris, à la tête de tous ceux qui se rassemblent pour mener le même combat.
Jacques Chirac, merci. Jacques Chirac nous avait dit avant de faire ses déclarations qu'il ne voulait pas qu'on lui pose de questions. Nous ne l'en posons pas, donc c'est un coup de théâtre. Jacques Chirac se présente à la mairie de Paris. À vous, Cognac G.
Le bulldozer, comme le surnommait Pompidou, se jette dans la campagne. Il aime serrer les mains, lever le coude, un sérieux atout. Et l'argent coule à flot, du jamais vu. 2 mois plus tard, l'affaire est pliée. Chirac remporte Paris haut la main contre Michel Dornano, le protégé de Giscard. Il remercie le couple Marie-France Garraud et Pierre Juillet. Ce dernier sourit et lui dit « C'est bien la première fois qu'on voit un cheval remercier son jockey. » Il est vrai que Chirac avait pris le parti gaulliste à la hussarde. mais par un sinistre dimanche de novembre 1978, suite à un accident de voiture, Chirac est hospitalisé. Fémur et vertèbre cassés. C'est donc un homme affaibli qui voit arriver Marie-France à l'hôpital Cochin, un parapheur à la main. Cette chemise contient un texte relatif à la prochaine élection européenne. En vérité, c'est une bombe. La France y est perçue comme inféodée. Il y aura de la cervelle sur les murs, s'alarme Denis Baudouin, le conseiller com. Eh bien, c'est exactement ce que nous recherchons, répond Pierre Juillet. Une fois de plus, Marie-France insiste, et Chirac signe. Mais le texte passe mal. Proche des théories de l'extrême droite, il sous-entend que Giscard est en train de vendre la France, je cite, à une Europe mollusque, sans corps ni dessin véritable. Alors on s'interroge, mais qui est donc Jacques Chirac? Un homme d'extrême droite? Et qui le conseille? Rapidement, Juillet et Garot sont pointés du doigt. L'heure est grave, on parle de crise de RPR et même de guérilla.
Les relations entre gaullistes et giscardiens sont très tendues. L'appel de Cochin lancé par Jacques Chirac, appel dans lequel le président du RPR critique très vigoureusement la politique européenne du chef de l'État, en est un exemple. Cet appel a séduit l'immense majorité des militants RPR, mais il divise en revanche les députés de ce mouvement. Des protestations de plusieurs d'entre eux, l'exclusion d'Alain Perfitte sont autant de signes de cette crise que traverse le RPR. Nul doute qu'à travers cette agitation, ce sont les élections européennes de cette année et même les élections présidentielles de 1981 qui sont en jeu.
Arrivé en quatrième position, loin derrière la liste de Giscard, le résultat des gaullistes est un naufrage. Alors Marie-France s'en va et Chirac ne la retient pas. Plus jamais il ne sera son cheval de Troie, son poulain, son protégé ou un de ces machins qui vous caressent le poil avant de vous planter un coup de couteau dans le dos. Une année passe, qui confine Marie-France dans son amertume. Elle n'a pas 50 ans et se sent en placard. Elle, la conseillère la plus redoutable. Comment est-ce possible? On va comprendre alors qu'il ne faut pas laisser ruminer le fauve. À l'approche de la présidentielle de 81, le 23 octobre 80, elle s'invite au JT TF1. Les membres du RPR se figent. Désire-t-elle se venger? Et de qui? De Chirac, bien sûr. Et puisqu'elle ne trouve aucun nouveau poulain à dresser, elle se présente elle-même devant les Français. Pour gagner? Non. Pour exister.
Oui, je suis candidate. J'ai mesuré, plus que tout autre, les risques et les difficultés. Je pense que c'est nécessaire pour défendre les idées auxquelles je crois. J'ai pensé pendant longtemps que d'autres plus puissants pourraient le faire mieux que moi. Mais ils ne veulent pas ou ils n'osent pas. Vous savez, je suis une femme, je suis seule ou presque. Je n'ai pas d'appareil et j'ai peu de moyens. Mais je suis libre.
Les Français découvrent sa voix, son chignon et son sens du tragique. C'est Jeanne d'Arc en culotte de chasse à cour, s'étrangle l'excellent Michel Crépeau, maire de La Rochelle. Mais c'est une Jeanne d'Arc qui aime les Anglais, et pour cause. Les millions de francs que coûte une campagne présidentielle, c'est chez un Anglais, Sir Arthur Forbes, qu'elle les trouve. Un homme riche, il gère les intérêts du groupe pétrolier Texaco. Et puis il y a aussi, chez les généreux donateurs, Georges Albertini, un ancien pilier du régime de Vichy, que consultait en douce Georges Pompidou et Edgar Faure, et qui a le bras long à Washington. Le bureau de Marie-France Garot, 31 quai Anatole France, devient son QG, qui accueille des gaullistes revanchards, d'anciens membres d'Occident, des royalistes d'Action française, ainsi que des étudiants d'Assas, une fac de faf, enfin à l'époque. Bien sûr, on y retrouve Pierre Juillet, et même Pierre Arpaillange, l'ancien ami de Jean Foyer, qui bientôt glissera à gauche à la faveur d'une nomination par François Mitterrand à la justice. Tous, en tout cas, adeptes de l'appel de Cochin, partagent le même rejet de l'Europe et de la modernité. Et tous sont fascinés par Marie-France. Maintenant, il faut les fameuses 500 signatures. Ah, comment faire? Eh bien, la chance lui sourit sous les traits de François Mitterrand. Mais oui, diviser l'adversaire, la droite, c'est toujours une bonne affaire. Le béaba de la geste mitterrandienne. Alors, ordre est donné de forcer la main aux maires socialistes et aux sympathisants, à charge de revanche, bien sûr. Mais au premier tour, le 16 avril, Marie-France ne récolte que 1,33% des voix et elle appelle à voter blanc au deuxième tour, comprendre, pas pour Giscard. Mitterrand apprécie. Après tout, 1,3%, pas énorme, mais ça peut faire la différence. Dans la foulée, Marie-France Garraud fonde l'IIG, Institut International de Géopolitique, où elle reçoit des diplomates et des hommes aux convictions volatiles. Mitterrand s'amuse de l'influence de cette femme désormais ennemie de ses ennemis et qui de facto devient alliée. D'ailleurs, il la reçoit à deux reprises, histoire d'intriguer les journalistes et de brouiller les pistes. D'autant qu'avec l'année 86, se profile la perspective d'une cohabitation inédite. Mais Chirac lui en veut encore. Non, il n'a pas pardonné l'appel de Cochin, ni cette phrase terrible publiée par le Canard enchaîné. Je croyais qu'il était du marbre dont on fait les statues. En réalité, il est de la faïence dont on fait les bidets. Alors, aidée par le milliardaire Jimmy Goldsmith qui vient de racheter l'Express, elle monte une liste dissidente avec ce slogan « Allier rigueur et imagination ». Pardon, mais imaginez quoi ? Le Parisien se méfie de cette femme réactionnaire et sans appareil, une intrigante. Sa liste ne recueille que 2,57% des voix, trop peu pour accéder à l'Assemblée nationale, alors que Jacques Chirac accède à Matignon sous le regard glacial de François Mitterrand. Se référant à la fable de La Fontaine, Marie-France professe « Chirac sert de souris à Ramina Grobis ». Les années passent, l'idéologie ultralibérale s'installe, et pour longtemps, les théoriciens de l'école de Chicago triomphent. Et l'URSS démantelée ne calme pas Marie-France, qui trouve dans l'Union européenne sa nouvelle cible. Au printemps 92, alors que le président prépare le référendum de Maastricht, elle agrège autour d'elle les ténors du souverainisme, Pierre Juillet, Jean Foyer, mais aussi Max Gallo et Jean-Pierre Chevènement. Et elle les motive. Lorsqu'on n'est pas dans une position de force, il faut rester ludique et mobile, assène-t-elle. Autant dire opportuniste. Et elle menace. Bientôt avec Maastricht, la France ne sera plus qu'un gros land et le président le patron d'une région. Chirac s'inquiète, elle est ravie. Et draine de nouveaux venus, comme Henri Guénot et Philippe Séguin. Ils se montrent ensemble, comme lors de cette conférence de presse le 13 avril 1992.
Nous ne sommes pas ici favorables à une Europe fédérale. Mais si le président de la République y est favorable, qu'il le dise et qu'il le pose en ces termes. Et on discutera ensuite des modalités techniques, financières, stratégiques, militaires, etc., qui iront avec ce choix politique de fond. Mais faire aux Français un choix politique qui est celui de l'abandon d'État-nation pour un État fédéral européen, en leur disant « vous savez, c'est plus simple, vous n'aurez qu'une monnaie au lieu d'en avoir 12 », c'est hypocrite, malsain et générateur de tensions.
Philippe Séguin n'a pas voulu dévoiler toutes ses cartes aujourd'hui. Comme l'a souligné Marie-France Garraud, qui a une certaine expérience, la prudence est une arme de combat.
Cet imposant quadragénaire lui plaît bien, Séguin. Mais pas du genre à se laisser cornaquer. Alors, les yeux de Marie-France se posent sur un jeune homme qui assume totalement son profil droitier, Philippe de Villiers. Il faut en profiter, d'autant que la droite se déchire entre Chiracains et Baladuriens. Ainsi voit-elle Chirac triompher devenir le cinquième président de la République. Aurait-il seulement la courtoisie de l'appeler pour le remercier de lui avoir mis le pied à l'étrier? Même pas. 4 ans plus tard, elle parvient enfin à se faire élire députée européenne sur la liste RPF menée par Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Officiellement, elle est exploitante agricole dans son château des Deux-Sèvres. Oui, mais quoi d'autre? Éminence grise à la française? En tout cas, cela fait du bien, ça lui fait du bien de s'éloigner de Paris, même si c'est pour vilipender cette maudite Union européenne, comme en témoigne cette interview donnée en avril 2000.
De Paris, on a l'impression, on se dit, est-ce que les députés européens s'embêtent pas un peu, s'ennuient pas, là-bas?
Non, mais c'est un peu, peut-être, ma situation actuelle, celle de l'entomologiste qui regarde l'animal. Ce qu'à vrai dire, je n'avais pas envisagé comme un objectif majeur, c'est parce que j'avais envie de faire campagne aux Européennes pour dire un certain nombre de choses. En fait, c'est le résultat.
À Strasbourg, elle se montre d'une assiduité peu commune, mais désormais, le regard des jeunes glisse sur elle sans s'attarder. Sans doute, cette place de députée n'était-elle qu'une victoire à la Pyrrhus, trop cher payée et venue trop tard. Retraitée, la voilà qui écrit des livres dans son château des Deux-Sèvres. Aux journalistes qui viennent la rencontrer, elle déclare, toujours aussi rancunière, « C'est vrai que Chirac avait du charme, mais un charme adolescent, celui d'un être inaccompli qui n'avait pas de ligne fixe. » Et toc. En somme, elle dénonce une présidence vacante et le fait que Chirac est bien incapable de faire l'histoire, tout juste de se couler dedans. Retoc. Nicolas Sarkozy, en revanche, lui plaît bien. Oh, ça aurait été une joie de s'occuper de lui, alors que c'est Henri Guénaud qui est parvenu à se placer. En revanche, cet ancien journaliste-là, Minute, Patrick Buisson, intéressant. Ah, ensemble, ils seraient allés loin. Et ainsi de suite dans le bal des regrets, pour une dame qui, au bout du compte, aura avalé bien des couleuvres.
That you do believe in us. You believe in me, I believe in you. How come that you do believe in us? Badly, it only got worse. She said that it depended on what's mine, but I know it depended on what's hers. It could have been perfect, I guess you thought it was. You didn't understand what was wrong till I told you it wasn't worth the cost.
Sensible aujourd'hui, Marie-France Garraud, dont nous allons parler avec notre invité Olivier Faye. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Monde en charge du suivi de l'Élysée, aujourd'hui encore d'ailleurs.
Toujours.
D'accord. Et auteur du livre La Conseillère, chez Fayard, livre consacré à Marie-France Garraud, bien sûr. À écouter le récit, à le dire d'ailleurs, je m'aperçois, j'ai terminé en disant, elle aura avalé bien des couleuvres, que durant sa vie politique, elle a eu plus de désillusions et de défaites que de victoires.
C'est ce qui est assez frappant avec le parcours de Marie-France Garraud, c'est qu'elle est arrivée très haut, très tôt. Elle a été au plus haut sommet de l'État, auprès de Pompidou, à Matignon, à l'Élysée, puis à nouveau à Matignon avec Chirac. Et pour le coup, avec Chirac, vraiment, elle avait une emprise sur lui totale, ce qui était quand même moins le cas avec Pompidou, qui était quand même un homme qui se laissait pas gouverner aussi facilement que ça. Et par la suite, en fait, après avoir effectivement connu ses sommets, elle a très vite chuté. Et pendant effectivement quasiment une trentaine d'années, elle a cherché à renaître de ses cendres. Mais finalement, son parcours pendant 30 ans a été une assez longue traversée du désert qu'elle a réussi quand même à traverser grâce à une intelligence évidemment que nul ne contestait, un charisme aussi assez incroyable parce qu'elle a réussi à s'imposer dans un monde d'hommes et un monde de hauts fonctionnaires très misogynes, d'hommes politiques, de puissants. Mmh. Elle a réussi à s'imposer dans ce milieu-là et elle a réussi quand même malgré tout, à grâce à son entregent, cette intelligence, à son charisme aussi quelque part, à subsister, on va dire, dans le milieu politique.
Et quand vous dites qu'elle a essayé de survivre, hein, finalement, de ne pas rester au placard, d'exister, c'est vrai que sa candidature en 1981 à la présidentielle de cette année-là, c'est vraiment le symbole de quelqu'un qui veut exister et puis qui loupe la marche, quoi.
Absolument, ouais. C'est vrai que cette présidentielle de 81, c'est assez amusant,
hein,
parce que c'est effectivement ça. Au départ, elle se fixait d'assez hauts objectifs. Elle se disait qu'elle avait un véritable message à porter, qu'elle portait le véritable gaullisme par rapport à Jacques Chirac, qui selon elle trahissait l'esprit du gaullisme, ou en tout cas son gaullisme à elle. Et sa campagne, en fait, a été un calvaire sans nom. Elle avait effectivement, comme vous le racontez, quelques militants de Brick et Brock, souvent venus de l'extrême droite, effectivement des bancs de la faculté d'Assas, qui l'avaient été ramenés parfois par les fils de Pierre Juillet, Juillet, son acolyte. Et sa campagne, en fait, dans les médias, l'ont complètement ignorée. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, en 81, les femmes étaient quand même vraiment, avaient la portion congrue dans la vie politique française.
Oh oui.
Et c'est le moment où, en fait, cette femme, qui était une femme anti-féministe, s'est rendue compte que, en tant que femme, bah, on est un peu ostracisé dans la vie politique française. Et notamment, les médias ont voulu organiser un débat pour la présidentielle avec les deux autres femmes candidates de l'époque, Huguette Bouchardot et Arlette Laguiller. Et donc, c'était les trois seules femmes candidates. Ils voulaient faire un débat avec ces trois femmes-là, alors que chaque homme candidat avait droit à son émission à lui tout seul. Et c'est à ce moment-là où elle a commencé à mettre en avant son statut de femme pour dire, attendez, quand même, vous êtes sacrément
gonflé. Parce
que ça l'arrangeait.
Voilà. Parce que ça l'arrangeait.
Alors que pendant des années, elle a eu un souverain mépris pour les femmes.
Alors, vous l'avez rencontré?
Bien sûr.
Bien sûr. Vous êtes un jeune journaliste, malgré vos connaissances, et vous étiez encore plus jeune quand vous l'avez rencontré.
J'avais 25 ans.
Oui, d'accord, j'imagine. Ça va pas être facile, hein.
J'étais, pour le coup, je me suis un peu liquéfié. En fait, cette rencontre a été assez fondatrice dans mon intérêt pour Marie-France Garraud. Parce qu'elle m'a reçu dans cet appartement qu'elle a toujours, qu'est Anatole France, qu'elle n'habite plus aujourd'hui parce que maintenant, elle aurait tiré dans les Deux-Sèvres. Mais cet immense appartement avec, on est tout de suite projeté, en fait, dans les années 60-70, dans la grande bourgeoisie de l'époque, avec des tableaux représentant des scènes de chasse, d'immenses bibliothèques avec la Pléiade
partout. Des fauteuils Louis XV partout.
Des fauteuils, voilà, dorés. Enfin, voilà.
Doré.
Et elle me fait asseoir sur un canapé vraiment très bas. Moi, je suis assez grand, elle est assez petite, et j'étais plus bas qu'elle. Et c'était une mise en scène, on va dire, assez terrifiante pour moi, jeune journaliste qui débutait tout juste dans le métier. Et elle avait effectivement une espèce de froideur, et dans le même temps, un côté assez ludique. On sentait que ça l'amusait, qu'on s'intéresse à elle déjà, la joute oratoire, en fait, la joute du dialogue, l'amusait beaucoup, et je pense que c'est ça qui a été un de ses moteurs aussi pendant très longtemps, parce que c'est une femme qui aime beaucoup rire, mais rire parfois aux dépens des autres.
Oui, on l'imagine difficilement rire. Vous avez réussi à lui tirer un sourire?
J'ai réussi parfois, effectivement, mais surtout grâce à ma maladresse, on va dire.
Bon, c'était quand même satisfaisant, ça détend.
Absolument.
Bien, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Alex Baupin, Sorry Angel.
C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé à rebours. Était-ce vertige, des veines, qui sait? Un voyage, un seul aller, au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. T'es foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges, pour toujours. Pour toujours et à jamais.
Olivier Faye, le récit a raconté Marie-France Garraud, nous en parlons ensemble, mais le titre aurait pu être Garraud Juillet, hein, parce que elle n'agit pas seule pendant de longues années, après oui seule, mais pendant le moment où on la connaît, elle est avec Pierre Juillet, enfin elle travaille avec Pierre Juillet, c'est un attelage intéressant, inquiétant, enfin tout ce qu'on veut.
et aussi fascinant et inédit quelque part, oui. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé dans les années 70 des spin doctors. C'était un concept qui s'aimait, on va dire, aux États-Unis, et ils ont quelque part importé ce concept en France. C'est ces conseillers de l'ombre qui font à la fois la communication politique, pardon, de la stratégie politique. Et ce qui est assez inédit, en fait, c'est que Pierre Juillet a quelque part partagé son pouvoir avec Marie-France Garraud. À partir du moment où il la rencontre en 67, quand il est conseiller de Pompidou, et pour le coup vraiment l'homme de confiance de Pompidou, et que Marie-France Garraud rentre dans le jeu à Matignon avec lui, il partage quelque part son influence, tant bien que pendant leur quinzaine d'années de collaboration, on va dire, dans les coulisses du pouvoir, il y a beaucoup de coups bas qu'on leur attribue à l'un ou à l'autre, mais on ne sait pas jamais très bien, en fait, lequel des deux a vraiment commis ces coups bas. Et ce qui est assez formidable dans ce duo, c'est qu'en fait, Juillet est un homme assez, on va dire, assez misanthrope, qui n'aime pas beaucoup parler, qui aimait bien aller se planquer dans la Creuse, là où il avait un élevage de moutons, et qui, en fait, appréciait, on va dire, la réflexion. Et Marie-France Garraud, elle était plutôt dans l'action. C'était une femme pour le coup très mondaine et qui appréciait le fait d'être dans le tout Paris. Et donc, quelque part, on va dire que Juillet activait parfois Marie-France Garraud et qui, ensuite déployait, on va dire, tout son charme et son intelligence pour essayer d'aller au bout de leur stratégie.
Ils se répartissaient bien les tâches. Cela dit, on peut quand même se poser la question de la pertinence de leur pensée politique avec l'affaire lamentable de l'appel de Cochin que Chirac a traîné comme un boulet longtemps et qui a fractionné le parti. C'était vraiment typiquement la très très mauvaise décision et apparemment liée pour quelque chose.
Effectivement, en fait, Marie-France Garraud a, on va dire, surinterprété le gaullisme dans une dimension purement nationaliste, en fait. Et ce qui a été d'ailleurs une des lignes de partage, on va dire, du gaullisme ensuite, une fois que le général de Gaulle est parti, il y a eu ensuite un éclatement de cette famille dans différentes directions. Marie-France Garraud et Pierre Juillet ont pris effectivement la direction d'un nationalisme, patriotisme, on peut l'appeler de différentes manières.
Décalé, anachronique en plus.
Absolument, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on est à une époque, en fait, les années 70, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que le gaullisme est triomphant, on va dire, et majoritaire dans les institutions. Mais culturellement parlant, en fait, c'est la gauche qui petit à petit, en fait, prend l'ascendant. Et finalement, Jacques Chirac se rendra assez vite compte que, en étant aussi anti-européen à une époque où la construction européenne quand même avance, et Giscard était quand même un de ses premiers promoteurs, il pouvait pas réussir à arriver au pouvoir. Il y a eu Giscard puis Mitterrand, deux présidents très profondément pro-européens.
Absolument.
Et Chirac, pour gagner en 95, prend ce tournant pro-européen. Justement, 92, Maastricht, c'est un des moments vraiment assez décisifs dans son parcours pour arriver à l'Élysée. Et c'est justement une des dernières fois où Marie-France Garraud et Pierre Juillet voient Jacques Chirac. Ils vont le voir dans son bureau RPR pour lui dire, surtout, ne soutenez pas le oui à Maastricht. Si vous soutenez le non, vous pouvez empêcher le référendum mitterrandien d'arriver à son terme. Et donc, vous pouvez empêcher cette course en avant de l'Union européenne. Et là, Chirac, voyant revenir quelque part les fantômes du passé, dit hors de question.
Vous lui avez fait part de la crainte qu'elle suscite de la part de ses contemporains. Vous me dites si c'est bien ça, qu'elle susciterait encore de la part de ses contemporains. Elle vous aurait répondu, ils ont raison.
Absolument. Et c'est ce qui est ça qui est formidable, en fait, dans l'enquête que j'ai conduite sur Marie-France Garraud, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui avaient peur de me parler à visage découvert. 40 ans après, ce que je trouvais quand même complètement improbable. Normalement, voilà, c'est bon, tout est soldé.
Ouais.
Et en fait, ça, c'est synonyme de la, on va dire, l'influence qu'elle pouvait avoir, mais surtout, en fait, de sa cruauté. En fait, c'est une femme de bons mots. Et je pense que sans doute certains avaient encore peur, parfois, d'avoir à subir ça. Et il y a certains personnages, pourtant, très éminents, comme Édouard Balladur ou Valéry Giscard d'Estaing. C'était évidemment à l'époque où il était encore de ce monde. Et les avais sollicités l'un et l'autre par leurs entourages respectifs. Et à chaque fois, on m'a répondu « Mais Monsieur Balladur comme Monsieur Giscard d'Estaing ne souhaitent pas vous répondre car ils n'ont que du mal à dire de cette personne et ils ne souhaitent pas perdre une heure de leur temps à dire du mal de quelqu'un. »
Est-ce que ça voudrait dire qu'elle détient quelques secrets ?
Ah, Marie-France Garraud, c'est une femme de ce, effectivement, qui a des tiroirs, à mon avis, fort bien remplis, et qui, pour le coup, est assez jalouse de ses secrets. C'est-à-dire que ça a commencé, effectivement, avec l'affaire Markovitch, comme vous l'avez raconté.
Y compris sur les affaires privées de Jacques Chirac et de sa maîtresse.
Effectivement, il y a cette histoire que je raconte au début du livre, c'est que, en fait, Jacques Chirac a failli, quelque part, plaquer toute ambition politique pour, et par pour exemple, sa femme Bernadette Chirac, pour une femme, Jacqueline Chabrillon, journaliste au Figaro. Et c'était une véritable histoire d'amour, hein. C'était pas simplement une petite incartade comme ça en passant. Il songe au divorce, il en parle avec son entourage, avec ses conseillers, dont Marie-France Garraud, qui elle, évidemment, elle a quand même son poulain Chirac, elle veut le porter à l'Élysée, elle veut rester au pouvoir. Donc c'est absolument hors de question. Et en fait, Marie-France Garraud fait un lobbying intense auprès de Chirac pour lui dire cette histoire, cette amourette, c'est fini, si vous divorcez, vous ne serez jamais président, ça ne peut pas marcher. Et donc Chirac finit par consentir en grommelant un peu, bon d'accord, c'est fini. Sauf que c'est pas lui qui va rompre avec Jacqueline Chabrillon, c'est Marie-France Garraud elle-même qui va aller voir Chabrillon en lui disant c'est terminé. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait une somme d'argent en jeu pour acheter le silence de Jacqueline Chabrillon, ce que l'intéressé dément. Mais voilà, ça démontre bien, on va dire, l'omnipotence de Garraud dans l'entourage de Chirac.
Alors, Jean Garry, vous connaissez l'historien Jean Garry, passionné de politique et de Ve République. Voilà ce qu'il disait sur le plateau de Valérie Benaïm sur C8, suite à la parution de son livre, intitulé « Une histoire érotique de l'Élysée », publié chez Payot en 2019.
Bah disons que pour la vie de Bernadette Chirac, ça a été un enfer, parce que toutes les femmes de la Terre tournaient autour de Jacques Chirac, et il appréciait...
Qui était bel homme, il faut quand même le reconnaître.
Qui était bel homme, ses journées étaient très souvent organisées autour de ses rencontres avec des dames. Il a même été un moment très amoureux d'une journaliste dans les années 70, quand il était Premier ministre, et il a fallu l'intervention de son entourage, notamment de Marie-France Garraud, pour lui dire, attention Jacques, vous êtes en train de torpiller votre carrière, il faut la laisser tomber, ce qu'il a fait d'ailleurs du jour au lendemain avec beaucoup d'élégance, il a laissé tomber cette journaliste. Il en était fou amoureux. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est ce que raconte notamment son chauffeur. Parce que les chauffeurs racontent beaucoup de choses. C'était pareil pour celui de François Mitterrand. Raconte que effectivement, Jacques Chirac, son surnom, c'était 3 minutes douche comprise.
Bien, bon, on passe. Oui, c'est amusant, c'est intéressant, puis on en a parlé avec vous déjà, mais important, a-t-elle joué un rôle dans l'affaire des écoutes du Canard enchaîné? Qu'est-ce qu'on sait de ça?
Écoutez, encore aujourd'hui, effectivement, les dirigeants du Canard enchaîné, en tout cas de l'époque, l'affirment. Mmh. Elle, effectivement, comme vous l'avez raconté, était très impliquée dans les écoutes téléphoniques. C'est qu'au début des années 70, on est après l'affaire Makovitch, et Pompidou a été marqué au fer rouge aussi par cette histoire-là, par le poison de la rumeur. Et à l'époque, quand une rumeur se répand, c'est assez difficile de la tuer quelque part, parce qu'il n'y avait pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui.
Mmh.
Et même si effectivement ça se répandait en dînant en ville, et Pompidou a été marqué par ça, et donc effectivement il y a eu tout un système d'écoute téléphonique qui était mis en place, et moi c'est ce que j'ai découvert dans mon enquête, c'est qu'il y avait un policier chargé de la sécurité de Pompidou, donc André Marguenot, qui en plus gérait ces histoires d'écoute téléphonique et qui faisait remonter ça à Marie-France Garraud et qui tous les soirs allait faire brûler ça, brûler les comptes rendus au fond du parc de l'Élysée.
Et donc on en fait des tonnes sur les écoutes de l'Élysée de François Mitterrand, c'est ce qui est parfaitement justifié, on pourrait le faire pour Pompidou. Hein.
Pour Pompidou,
c'est un chose,
en fait, à chaque fois, il y a
pour des questions privées en plus.
Absolument, et à chaque fois, il y a eu chaque alternance, on va dire, ou à chaque nouveau président, on a eu de nouvelles promesses en disant c'est terminé, c'est l'histoire ancienne. Chaque fois, c'était démontré que c'était pas le cas.
Bien sûr. Qu'est-ce qui l'a poussé à ces excès, ce caractère, cette âpreté? Peut-on imaginer que cette hubris prend sa source dans le regard hautain de son père?
Il y a de ça, et il y a aussi du fait que je pense que quand on est une femme, c'était surtout à l'époque très difficile de s'imposer dans la vie politique française.
D'accord.
Et donc, elle s'est comportée quelque part comme un homme. Moi, j'essentialise un peu les choses qu'elle se refuse à faire justement. Elle dit, mais c'est en gros ce qui compte, c'est l'intelligence, c'est la culture. Mais voilà. Et effectivement, cette intransigeance qu'elle a pu avoir dans les rapports humains, c'est ce qui a aussi assuré quelque part sa survie sur le long terme. Et qui a laissé ce goût amer dans la bouche de beaucoup de personnes, y compris, pour y revenir, de Jacques Chabrillon, qui aujourd'hui encore a beaucoup de mal à parler de Marie-France Garraud.
Mmh. Il nous reste 30 secondes, je me lance quand même. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors vraiment, résumé, ça nous dit cette histoire de Marie-France Garraud, des mœurs politiques des années 70 et 80?
Ça nous raconte une forme de passage à la modernité, parce qu'aujourd'hui, les conseillers politiques sont encore aujourd'hui tout puissants. On a eu Patrick Buisson ensuite avec Nicolas Sarkozy. Et en fait, je pense que on a tourné une page. Avant, on était dans l'époque de la résistance et des grands barons du gaullisme, c'est-à-dire des personnages qui existaient par eux-mêmes. Et par la suite, on a eu des personnels politiques plus, entre guillemets, quelconques et avec des conseillers qui ont pris plus de pouvoir.
C'est un bon résumé. Merci infiniment.
Merci à vous.
Olivier Fay, au revoir. C'est
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Marie-France Garraud, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.